bonsoir et merci d'être là. Et merci à la Fondation Michalski et toutes les personnes ici qui organisent cette rencontre et cette lecture. Je vais commencer par vous lire le tout début de l'ouverture du livre dont j'ai envie de parler dans cette petite heure, qui s'intitule « Mais leurs yeux dardaient sur Dieu » de Zora Neale Hurston. Et donc, c'est un livre que j'ai traduit et qui vient de paraître aux éditions Zulma. Alors, voilà. Les navires au lointain transportent à leur bord tous les désirs d'un homme. Certains reviennent avec la marée. D'autres voguent à jamais sur l'horizon, sans jamais s'éloigner du regard, sans jamais toucher terre jusqu'à ce que le guetteur détourne les yeux de résignation, ses rêves raillés, mortifiés par le temps. Telle est la vie des hommes. Les femmes, elles oublient tout ce dont elles ne veulent pas se souvenir et se souviennent de tout ce qu'elles ne veulent pas oublier. Le rêve est leur vérité. En conséquence de quoi elles agissent, font ce qu'elles ont à faire. Alors ce début de roman est assez métaphysique, c'est assez déconcertant. Ce roman, pour moi, contient énormément de choses. C'est un roman d'amour, mais c'est aussi un roman d'émancipation. C'est une réflexion vraiment métaphysique sur l'existence. Et tout ça à travers le cheminement d'un personnage qui s'appelle Jenny May Crawford et qui vraiment peut être vu comme le double de Zora Neale Hurston, l'auteur. Zora Neale Hurston est une écrivaine américaine de très très grande importance, mais qui est très peu connue du monde non anglophone. Aux États-Unis, c'est un classique étudié en principe dans toutes les écoles. Étudiée à l'université. C'est un classique qui a été redécouvert parce que une auteure américaine, Alice Walker, est allée à la recherche de Zora Neale Hurston qui avait été oubliée, mise un peu au purgatoire entre la dernière partie de sa vie et mettons 25-30 ans après sa mort. Alice Walker qui a grandi avec Zora Neale Hurston en écriture, tout comme Toni Morrison, tout comme ces grandes figures de la littérature afro-américaine et féministe. Elles ont grandi avec ce texte qui, depuis sa parution en 1937, est un texte que lisent toutes les femmes américaines noires qui s'engage en écriture. Et quand elle va à la recherche de Zora Neale Hurston, c'est qu'elle va vraiment faire une enquête, chercher sa tombe déjà. Pour ça, elle se fait passer pour une nièce et on lui indique un endroit perdu au milieu d'un cimetière, plein de broussailles. Et elle découvre en effet une tombe, elle lui fait poser une stèle et elle fait inscrire dessus, je crois, un génie de la littérature américaine ou quelque chose comme ça, j'ai oublié. Et à partir de ce moment-là, Zora Neale Hurston entre dans le panthéon des lettres américaines et elle fait vraiment l'objet d'un culte maintenant. Un culte au sens, c'est vraiment, on redécouvre à quel point cette œuvre était géniale. Et alors, faut que j'en vienne au fait. Pourquoi c'est génial? C'est que Zora Neale, sa personnalité elle-même est extraordinaire. Elle est née en 1891 dans le sud des États-Unis, en Alabama. Elle a longtemps menti sur le lieu de naissance, son lieu de naissance. Elle a dit, je pense toute sa vie, qu'elle était née à Eatonville, où en fait ses parents ont emménagé très très peu de temps après sa naissance, enfin oui, peut-être 2-3 ans. Ils ont déménagé à Eatonville, qui se trouve en Floride, et elle est restée jusqu'à la fin de sa vie très attachée à ce lieu et aux gens qui l'habitent. Eatonville, c'est la première ville constituée, la première ville fondée par exclusivement des Noirs américains aux États-Unis. Ça s'est fait en, si je me souviens bien, oui, au moment de, enfin, quelques années avant sa naissance, en 87, 1887. Et donc, elle a grandi avec les habitants de ce lieu elle-même. Elle a vu une ville se faire grandir et elle-même s'est construite comme une petite fille noire américaine dans une communauté autosuffisante, autonome, noire. Et donc ça a été pour elle un peu un choc quand elle a découvert finalement la ségrégation à peu près à l'âge de 13-14 ans, quand elle a été obligée de quitter Eatonville, sa mère étant morte, sa mère qui la soutenait vraiment, c'était elle est passionnée par l'écriture et la littérature, et sa mère vraiment encourageait cette personnalité particulière. Elle a grandi entre une mère comme ça, très bienveillante à son égard, et un père, lui, très strict, pasteur. Je ne sais pas s'il a été maire d'Eatonville, mais il était un notable. Et malheureusement pour Zora Neale Hurston, à la mort de sa mère, son père décide qu'elle n'a pas à poursuivre ses études. Il décide d'arrêter de payer son école. Et elle est en plus ou moins contrainte de quitter le foyer parce qu'il se remarie avec une jeune femme à peine plus âgée que Zora Neale Hurston. C'est assez insupportable, si bien qu'elle se retrouve pratiquement à la rue à 14 ans à faire à survivre. Je pense qu'elle a été bonne dans des maisons bourgeoises et essentiellement ça, travailler en restauration. Et pendant quelques années, elle vit comme ça et elle réussit à entrer à l'université Howard, qui était une université non sectaire, la première. Elle ment pour ça sur son âge, donc c'est l'un des nombreux mensonges de Sorani. Pour pouvoir entrer à l'université, elle se rajeunit un petit peu. Donc pendant, jusqu'à sa mort, elle a été bien plus jeune qu'elle ne l'est. Et puis, elle entame là des études qui l'amèneront ensuite à Harlem, à Washington, à l'université Barnard. Et là, à Washington, elle commence des études d'anthropologie. Elle est la première femme noire américaine anthropologue. Et son terrain d'enquête se trouve être le folklore noir américain. Et toute sa vie, elle s'est consacrée aux histoires que porte pour résumer cette communauté dont elle-même elle venait et où elle a grandi, toutes ces histoires qui ont construit son imaginaire et qui l'ont construite elle en tant que petite fille et femme noire. Et elle a travaillé vraiment, elle a mené de front son travail d'anthropologue et son travail en écriture. Je pense que pour elle, les deux se nourrissaient. Quand je parlais du livre et disais qu'il contenait beaucoup, il contient aussi une étude anthropologique. Quand elle, 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 elle raconte l'histoire de Jenny May Crawford et qu'elle elle la raconte au sein d'une plus grande histoire qui est l'histoire du peuple américain avec toutes les voix qu'elle fait sortir de cette histoire. Elle fait aussi comme ça une étude, mais à travers un roman très poétique, très lyrique et très étonnant par sa langue. Oui, par sa langue. Et donc quand elle le publie en 1937, c'est vraiment un phénomène parce que personne n'avait jamais fait ça. Et comment dire, en même temps, il y a Faulkner dans la même période qui écrit des romans et voilà, qui a une notoriété, surtout en France d'ailleurs à cette époque-là, importante parce que il fait parler la population du sud des États-Unis, noire et blanche, et qu'il fait sonner cette langue en anglais. Donc en France, on a très vite reconnu le génie de Faulkner, et en même temps, Zora Neale publiait ce roman, mais elle est restée jusqu'ici complètement inaperçue, notamment en France en tout cas. Voilà, où Faulkner aurait eu un grand destin tout de suite, bien avant les États-Unis. Je me perds et je crois qu'on va. Alors, je suis très heureuse de revenir ici pour la troisième fois et de rencontrer plein de nouvelles belles personnes, dont Elisa et Myriam, qui vont m'aider à faire entendre le texte de Zora Neale dans les voix américaines, la voix américaine, et puis moi dans la voix que je lui ai donnée en français. Voilà. Et du coup, je vais te laisser poursuivre cette page que j'ai commencée.
Alors, je commence.
Oui.
Ok. So the beginning of this was a woman, and she had come back from burying the dead. Not the dead of sick and ailing, with friends at the pillow and the feet. She had come back from the sodden and the bloated, the sudden dead, their eyes flung wide open in judgment. The people all saw her come because it was sundown. The sun was gone, but he had left his footprints in the sky. It was the time for sitting on porches beside the road. It was the time to hear things and talk. These sitters had been tongueless, earless, eyeless conveniences all day long. Mules and other brutes had occupied their skins. But now the sun and the boss man were gone, so the skins felt powerful and human. They became lords of sounds and lesser things. They passed nations through their mouths. They sat in judgment.